Nous entendons une première lecture qui se trouve dans le livre de la Genèse. Il s'agit du récit de la tour de Babel. Genèse chapitre 11, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible en même temps, les versets 1 à 9.
Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre.
Puis nous entendons une seconde lecture, cette fois-ci dans le livre des Actes, c'est le récit de la Pentecôte que nous fait Luc, chapitre 2, les versets 1 à 13.
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un vent violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue.
Déconcertés, émerveillés, ils disaient, tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome, en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» D'autres s'esclaffaient, « Ils sont pleins de vin doux. »
Chaque année, la Pentecôte nous replace devant le dénouement d'une histoire très ancienne. Commencée avec la tour de Babel, cette histoire connaît un véritable renversement avec le deuxième texte que nous avons entendu. La Pentecôte, c'est en quelque sorte l'anti-Babel. Dans le texte de la Genèse, des hommes ambitieux, soucieux de conforter leur civilisation, désireux de s'élever, de progresser en connaissance, sont partis à l'assaut du ciel. Difficile de savoir exactement en quoi consistait leur initiative. Mais on a l'impression que Dieu met autant de soin à faire capoter leur projet qu'il en avait mis à écarter Adam et Ève de l'arbre de la vie, comme pour mieux éviter une catastrophe. Nous savons que dans le cas d'Adam et Ève, ce n'est pas tellement le besoin de savoir qui était condamné en tant que tel, il y avait plutôt un avertissement au sujet des conséquences de ce besoin de savoir. Le risque de nous retrouver rapidement face à nos propres limites, la conscience un peu douloureuse qui nous fait mesurer toute notre ignorance au fur et à mesure que nos travaux avancent, le risque de l'insécurité là où la connaissance était censée nous donner confiance en nous-mêmes. Avec la tour de Babel, il y a peut-être aussi ce genre d'avertissement, mais au sujet cette fois des conséquences de nos ambitions. Cette tour qui s'élève en direction du ciel est un besoin d'accaparer, de dominer, d'avoir de l'ascendant surtout. On n'entame pas une ascension si on ne veut pas avoir de l'ascendant. Cette montée vers le ciel est une montée en puissance. Les hommes qui ont construit cette tour pensaient atteindre le ciel par leurs propres moyens. C'est exactement ce qu'ils ont fait ou essayé de faire. La suite est connue. Ce projet qui se voulait unificateur, à marche forcée peut-être, ce projet échoue parce que Dieu installe un brouilleur dans le système. La belle unité de surface éclate pour révéler ce qu'elle est. L'arrogance de se faire un nom démontre bien que ces bâtisseurs n'avaient pas d'autre objectif que leur propre personne, leur réputation, leur gloire, leur prestige. Mais dans le livre des Actes que Luc écrit pour faire suite à son évangile, il y a une toute autre approche que dans la tour de Babel. Il y a bien un rassemblement, il y a beaucoup de monde ce jour-là. Nous lisons bien que toutes les foules assemblées devant les apôtres sont de toutes les origines connues à l'époque. C'est toute la terre habitée qui défile devant eux. Mais aucun d'entre eux n'est recruté, embarqué dans une entreprise immense au service d'une ambition autocentrée. Là où les architectes et concepteurs de Babel jetaient leur volonté, leurs compétences dans un projet dominateur, ascendant, sûr de lui-même, les apôtres se mettent au service d'un projet unificateur également, mais descendant, c'est-à-dire qui accueille une parole autre que la leur. Un projet distributif, inclusif. Là où Babel se donnait les moyens d'une montée en puissance, la Pentecôte propose une montée en harmonie, respectueuse de la culture de chacun, ouverte à la liberté de faire un usage tout à fait unique et très personnel d'un héritage reçu. Que se passe-t-il exactement dans ce texte des Actes ? Il faut peut-être se figurer la Pentecôte comme une sorte de sablier avec la partie haute, un passage étroit au milieu et une partie basse qui est le miroir inversé de la partie haute. Dans le haut du sablier, il y a les apôtres dont l'équipe vient juste d'être reconstituée après une catastrophe, celle de la disparition de Jésus. Cette communauté n'est déjà plus un groupe de désespérés face à un tombeau vide, parce que la foi de Pâques est déjà passée par là. Elle les a déjà transformés. Ils sont passés à autre chose, la certitude qu'on ne peut pas se débarrasser d'une parole de vie en la crucifiant ou en l'enfermant dans un tombeau. Ça ne marche pas. C'est là que l'Esprit Saint cueille ou atteint, si vous préférez, les apôtres, pas tous en même temps, chacun individuellement. D'abord par le souffle caractéristique d'un Dieu créateur, vous vous souvenez, le souffle de Dieu qui plane au-dessus des eaux et qui insuffle la vie dans les narines humaines, autre manière de nous dire que tout ce qui est essentiel et vital nous vient toujours de quelqu'un d'autre. Dieu vient déjà habiter chez nous par le souffle, par la respiration qui, comme les battements du cœur, est un mouvement, inspiration, expiration. Et puis, il y a le passage étroit du sablier. Il y a les langues de feu, ou plus exactement quelque chose comme des langues de feu. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas de quoi il s'agit, et c'est sans importance d'ailleurs. Ce sont ces effets qui comptent, parce que ce sont les effets de ces choses qui ressemblent à des langues de feu qui nous sont racontées. Impossible de ne pas penser, évidemment, au buisson ardent ou à la colonne de fumée qui accompagne le peuple d'Israël sortant d'Égypte. Quand ce feu qui ne brûle personne et ne consume rien se manifeste, c'est une image de la présence de Dieu dans la littérature biblique. C'est comme ça. C'est le signe que Dieu est là. Et après le Dieu créateur vient le Dieu libérateur. Ce qui est frappant ici, c'est qu'il n'est plus question d'un peuple pris dans son ensemble, avec ses apôtres pris individuellement. Un peuple pris dans sa seule dimension collective, comme c'est le cas dans la tour de Babel ou même au moment de la sortie d'Égypte encore. Il n'est pas question ici de se faire un nom, ou une réputation, ou ce que vous voudrez, mais d'être appelé chacun par son nom, ce qui est très différent. La vocation, l'appel des apôtres est bien individuel, comme la réflexion qui s'étend tout au long des années de catéchisme. On est en groupe, on est accompagné par des catéchètes, mais on est seul aussi dans sa démarche, parce qu'on est le seul, au bout du compte, à mener sa route, et c'est très bien comme cela. De la même manière que dans la démarche très personnelle qui conduit à demander le baptême, on est aussi saisi individuellement, comme ça, et poussé sur un chemin, encouragé, mais pas convoqué, embarqué dans un projet de montée en puissance. Et puis, il y a la partie basse du sablier. Les apôtres récepteurs sont devenus émetteurs. Ce que chacun a reçu à sa manière, avec sa propre vision du monde, sa propre grammaire, sa propre culture, ses propres capacités, son propre caractère, sa sensibilité propre, cet héritage-là, déjà un peu transformé au moment de sa réception, est redistribué à toute la terre habitée, venue là pour chercher, elle aussi, une parole qui donne la vie. Le message des apôtres n'est pas retranscrit par Luc, nous n'en connaissons pas le contenu exact, même si nous pouvons bien imaginer ce que sont pour eux, comme pour nous, les merveilles de Dieu. Une parole que rien n'arrête, qui restera féconde pour toujours. C'est probablement en substance ce que les apôtres annoncent à leur auditoire venu de partout. Comment ont-ils pu se faire comprendre sans s'intéresser à la langue, à la culture et surtout aux attentes de ces gens pleins d'espoir? Comment ont-ils pu dire le Dieu qui crée encore et toujours, qui libère encore et toujours, sans faire mouvement en leur direction? Ils ont eu la confiance énorme qui consiste à dire « Je te donne ce que j'ai reçu, je n'en suis pas propriétaire, mais seulement détenteur provisoire. Maintenant, c'est à toi. Tu peux en faire ce que tu veux. J'ai confiance. C'est le même esprit qui souffle, qui respire en toi comme en moi. » De leur côté, ces individus rassemblés, qui n'ont à aucun moment été une foule manipulable et embarquée dans un projet qui n'était pas le sien, tous ces gens-là, chacun de leur côté, retournent chez eux avec un trésor dont ils pourront faire ce qu'ils veulent. Chacun ici, comme les apôtres avant eux, a trouvé sa vocation spécifique, pas la même que celle du voisin, et ça n'est pas grave. Chacun a trouvé sa place dans le monde et le cheminement qui lui est propre. Il n'y a plus qu'à vivre. Dans ce récit de Luc, il y a sans doute un modèle d'église. Accueillir ceux qui viennent comme ils sont sans chercher à les transformer en autre chose que ce qu'ils sont. Confier à leurs mains le trésor d'une parole vivante qui ne nous appartient pas. C'est ce que nous faisons aussi ici en Église, les laisser faire leur propre cheminement parmi nous à leur manière. Il faut pas mal de confiance pour cela. Eh bien, aujourd'hui, pour Kezia, pour Keren, pour Michael, pour Finch, nous sommes heureux ici, à Palaiso, de vous dire toute la confiance que nous avons en vous. Nous sommes tous dans la partie basse du sablier, les mains ouvertes, à lâcher ce que nous tenons, Heureux de vous savoir toujours en route, pas encore arrivé, mais comme tout le monde ici d'ailleurs, vous êtes, pour un peu de temps encore, au centre du sablier, mais c'est maintenant que le reste du parcours vous attend. Chacun reçoit la même parole, mais chacun en fait quelque chose de différent à son rythme et à sa manière. Ce n'est pas un inconvénient, ce n'est pas non plus un problème. Au contraire, c'est même constitutif de l'Église des premiers temps, la preuve, et donc de toute Église par la suite. Amen.